Seigneur, tu as dit que toi-même, que la terre et le ciel passeront, mais ta parole ne passera point. Et nous voulons l'ouvrir ce matin avec reconnaissance, mais aussi, Seigneur, dans le souci de la recevoir pour la mettre en pratique. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'une fable. La fable de Yotam. Vous connaissez Yotam ? Vous ne connaissez pas Yotam ? Alors certains parlent de Jotam ou de Yotam, je ne sais pas en hébreu comment ça se dit. Alors vous allez le découvrir si vous ne connaissez pas cette fable. Hein. Ce n'est pas une fable de La Fontaine, hein. C'est une fable qui se trouve dans la Bible. C'est une des fables les plus dramatiques, je pense, de la Bible, à mon sens. Et on va la découvrir ensemble. Ça se trouve dans les livres des juges. Les livres des juges se trouvent après Samuel, enfin ça dépend des Bibles, mais en principe c'est après Josué, pardon. Bien sûr, ça parle de Samuel, Nombre, Samuel et Juge. Josué et Juge. Voilà. Alors Juge, chapitre 9, verset 7. Yotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici qu'il leur cria à haute voix. Voilà la fable. Écoutez-moi, notables de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile, par laquelle, grâce à moi, on honore Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres. Et les arbres dirent au figuier, « Viens-toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez me donner l'onction comme roi sur vous, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Voilà la fin de la fable. Et je continue à lire. « Mais maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi ?» Donc là, c'est Yotam qui reprend la parole. « Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec ? Avez-vous usé de bonté envers Yérubal et sa maison ? L'avez-vous traité selon la valeur de ses actes ? Car mon père... » C'est Gédéon dont il parle. Hein. « Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie au front et vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Aujourd'hui, vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les notables de Sichem, Abimélec, fils de la servante, parce qu'il est votre frère. Et si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Yérubal et sa maison, qu'Abimélec fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les notables de Sichem et de la maison de Milo, et qu'un feu sorte des notables de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimélec. Yoram se retira et prit la fuite et s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimélec, son frère. Je vous propose de continuer à lire chez vous la suite de ce chapitre 9, mais on va arrêter là notre lecture. Cette histoire se passe dans une période où il est dit dans Juges, un petit peu plus loin, chapitre 21, verset 16, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. » Chacun faisait ce qui lui semblait bon, ou, dans d'autres versions, ce qui lui convenait. Voilà l'état d'esprit de ce qui se passait dans le temps des juges avant l'établissement du roi, des rois, de la période des rois qui a commencé avec Saül, David, etc. Autant dire que c'est une période chaotique, surtout au point de vue spirituel. Le contexte de cette fable nous conduit juste après la mort de Gédéon. Yéroubal, c'est Gédéon. Gédéon avait dirigé le peuple pendant 40 ans. Oui, peut-être on ne se rappelle plus, on se rappelle de Gédéon, on connaît Gédéon, mais il a quand même dirigé, les juges à l'époque avaient la charge de la direction du peuple. Il avait délivré le peuple des incursions désastreuses des Madianites, qui rasaient tout, enlevaient les récoltes, etc. Cette délivrance lui a valu les honneurs du peuple qui lui proposa, donc dans Juges chapitre 8, verset 22, de devenir roi d'Israël. Mais, fait exceptionnel, Gédéon déclina cette offre, ne voulant pas occuper une place qui n'appartenait à ses yeux qu'à Dieu seul. Tant que Gédéon a été en vie, donc les 40 ans qui ont suivi la délivrance d'Israël, il conserva cette attitude de respect, de fidélité envers Dieu, et le peuple suivait son exemple bon an, mal an. Mais à sa mort, tout changea, très très vite. Et on se remit à adorer les faux dieux, les Baals, les Astartés. Et le texte précise même l'incroyable changement de sentiment du peuple. Dans Juges 8, verset 34, je lis « Les enfants d'Israël ne se souvèrent point de l'Éternel, leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. » Vous voyez comme quoi on peut rapidement, en tant qu'enfant de Dieu, ne plus se souvenir de ce que Dieu a fait. C'est pour ça que c'est important aussi les témoignages et de nous rappeler la fidélité de Dieu dans nos vies. Alors Gédéon a eu 70 fils. Pas mal, hein. J'ai connu des gens qui avaient 12 fils, enfin 12 enfants, quoi, fils. Je sais que Jean-Sébastien Bach, que j'aime beaucoup, il en avait 24. C'est pas mal, mais 70, voilà, c'est quand même un record. Hein. Bien sûr, avec beaucoup de femmes, hein. Pas qu'une femme qui en avait 70. Pardon ? Oui, beaucoup d'autres filles. Ah oui, il n'y a que des fils, alors c'est peut-être 120, c'est ça ? Ouais. Et il avait un fils avec une concubine, nous est-il dit, et ce fils s'appelait Abimélec. Et en fait, le récit porte sur Abimélec. C'est marqué dans Juges 31. Ce dernier était le moins légitime. Parce qu'en plus, les autres femmes, bon, c'était légitime, mais là, c'était qu'une servante, une concubine. Et c'est ce fils-là qui s'empara du pouvoir d'une façon fallacieuse, donc fausse, et éradiqua d'une manière atroce toute concurrence. Il tua ses 69 frères. Il faut le faire. La Bible dit 70, mais c'est 69 parce que celui qui parle, là, Yotam, c'est celui qui a échappé. Hein, et ils ont tous convoqué et ils ont écrasé leur tête sur un rocher. Vous voyez comme quoi on peut être très, très terrible hein, dans les massacres. Un massacre de toute une famille. C'est Juges chapitre 9, verset 5, vous avez ce récit. Et les habitants de Sichem proclamèrent roi Abimélec. Il a tué tous ses frères, sauf un qui a échappé, et il a été proclamé roi. Ça ne vous dit pas quelque chose d'étonnant. Voilà. Et durant la cérémonie d'établissement du roi Abimélec, eh bien, le jeune Yotam, perché sur la montagne Garizim, c'est celle qui est en face de Sichem, prononça à voix ce discours, cette fable surprenante, avec les commentaires donc, que j'ai lus après jusqu'au verset 21. Et après avoir prononcé ces paroles, Yotam, bien sûr, prit la fuite. Sinon, il aurait subi le même sort que ses frères. Mais avant d'aborder la réflexion sur ce texte, rappelons le principe de la fable. La fable est avant tout un récit populaire. De la même manière que Jésus utilisait des paraboles. C'est-à-dire, on peut le comprendre, tout le monde peut le comprendre. C'est un enseignement simple qui se sert des images familières de la vie courante Et ici, dans notre récit, il s'agit de prêter aux arbres, les plus connus en Palestine, eh bien, des sentiments humains. Le but de la fable, comme la parabole de Jésus, est de permettre à chaque auditeur de tirer lui-même les leçons de cet enseignement. Ce n'est pas un enseignement qui impose une lecture, mais bien sûr, c'est sous-jacent. Et chacun, et on verra ce qu'on peut tirer à la fin nous-mêmes de cette fable qui est toujours d'actualité. Dans une fable comme celle-là, comme dans les paraboles, il ne faut pas que chaque détail prenne une importance. C'est le message général qui convient de comprendre. Dans le cas qui nous intéresse, le cadre historique donc, qui est à l'arrière-plan, c'est la personnalité d'Abimélec. Homme cruel, sans scrupules, avide de pouvoir, qui fait partie du décor de cette fable. J'ai essayé d'éclairer un petit peu pour vous les symboles. Vous savez, tout langage est symbolique. Si je dis arbre, c'est A-R-B-R-E, c'est ce qu'on apprend quand on est à l'école maternelle, pour créer un mot qui renvoie à une réalité. Mais après, il y a aussi d'autres symboles. Il y a d'autres symboles qui sont dans les symboles bibliques, qui sont des images. Donc on prend arbre, qui renvoie à l'image du peuple. Il représente les peuples. Vous avez cette confirmation dans 1 Chronique 16, verset 33. Quand on parle des arbres, on parle des peuples. Donc voilà, l'image, c'est il faudrait changer arbre par peuple. Donc dans le cas précis, il symbolise le peuple de Sichem et la maison de Milo dans son désir d'élever un des leurs à la royauté. Deuxième symbole, l'olivier. L'olivier est dans la Bible symbole de prospérité et d'espérance. Vous savez, l'huile qu'on tire, vous m'entendez là ? Parce que je sens qu'il baisse, non ? Tu as peut-être une nouvelle pile ? Non ? Non, ça va. Ok, je ne m'entends pas de la même façon. L'huile qu'on tire de l'olivier est utilisée, bien sûr, dans tout le Moyen-Orient, et c'est quelque chose de capital, hein, l'huile. Donc, symbole de prospérité et d'espérance. Le figuier, je vais très vite, hein, parce que je voudrais arriver à la fin de la compréhension de cette fable. Le figuier, il est aussi symbole de prospérité, mais plutôt de fécondité et de paix. Il est cité dans les promesses faites par Dieu à son peuple, dans Joël, et il est mentionné une 50 fois, à peu près 50 fois dans la Bible. Par exemple, l'expression proverbiale « être assis sous sa vigne et sous son figuier » dans Roi, Michée, etc. Troisième image, la vigne. Symbole de prospérité et de joie. Elle est toujours à prospérité, mais on rajoute quelque chose, c'est la joie. Le figuier est associé à cette triade de plantation des arbres hein, qui font partie de la Palestine, qui était très très cultivée au point qu'elle symbolisait l'image du peuple d'Israël. Hein. Vous trouverez dans le Nouveau Testament et Jésus qui prend l'image du figuier, je ne peux pas en dire davantage, mais symbole du peuple d'Israël. Dernière image que je commenterai, c'est le buisson d'épines. Alors, le buisson d'épines ne produit rien. Il n'y a pas de fruits. Mais tous les autres ont des fruits. Il ne donne pas d'ombrage, même pas d'ombrage. Et la plupart du temps, il sert à démarrer le feu ou à être mangé par les bêtes. En résumé, l'olivier, le figuier et la vigne étaient constamment présents dans la vie quotidienne du peuple. Et leur signification symbolique était très accessible à l'époque par tout le monde. Tous les trois portaient du fruit, ils avaient une valeur positive, bénéfique, et on aurait pu penser que l'un d'entre eux soit apte à être roi. Il n'en fut rien. Chacun déclina l'offre. Alors voilà, on peut très bien comprendre que cette fable, si on garde en mémoire toute la question de la royauté d'Israël, on comprend un peu mieux quelles sont les difficultés de la question de l'autorité. L'histoire de Gédéon est très symptomatique parce que Gédéon, on lui proposa, le peuple lui a proposé d'être roi et il refusa. laissant entendre qu'un seul avait cette responsabilité et ce privilège, c'est Dieu seul. C'est très bien déclaré dans le Juge, chapitre 8, verset 22. De ce fait, l'élément central de cette fable apparaît en filigrane. La véritable royauté revient à Dieu seul et non à l'homme. A fortiori, quand il y a une usurpation de la royauté, comme c'était son cas. Hein, comme le buisson d'épines, fils de la servante, de la concubine. Aujourd'hui, on dirait un bâtard. Symboliquement, le contraste est saisissant. Il y a ceux de la maison de Gédéon qui reconnaissent la seule autorité de Dieu et ils sont dans une totale disposition de service. Et il y a ceux qui sont imbus de pouvoir, comme Abimélec, qui vont tout faire pour parvenir à leur fin. Le service, la domination ou la domination, tel est l'enjeu de cette fable. Elle nous conduit par extension à la très ancestrale opposition entre l'humain et l'esprit. Dans le torrent qui purifie, qu'on fait, que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas fait, la première leçon s'appelle « Marcher par l'esprit et non par la chair ». Vous vous rappelez ? Sinon, vous pouvez la refaire. C'est absolument capital. En tant que chrétien, si nous ne comprenons pas cette disposition de cœur, nous passons à côté de ce que nous sommes appelés à faire. Marcher par l'esprit, pas marcher. Sinon, on tombe dans cette fable et on fait la même chose qu'Abimélec. Le buisson d'épines, vous voyez donc, retour à cette fable, symbolise toutes les prétentions vaniteuses de l'homme. La vanité. Dans notre fable, il promet, donc le buisson d'épines, hein, qui est Abimélec, hein, parce que là on a l'explication de la fable, il promet aux arbres, donc figuiers, oliviers, qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Oui, la vigne. Dans notre fable, il promet à ces arbres de se réfugier sous son ombrage. Est-ce qu'il a de l'ombrage, les buissons d'épines ? Suprême dérision. Il promet ce qu'il est incapable de faire et de ne pas donner. Pour grossir la caricature, en plus, il brandit une menace. Or, celle-ci, lui, est le plus souvent destinée, c'est mettre le feu. Il veut mettre le feu aux autres, alors que c'est lui qui est destiné au feu. Sa grossière prétention l'amène à vouloir brûler la majesté de tous les cèdres du Liban. Vous connaissez les cèdres ? Voilà ce qu'il promet, de brûler les cèdres du Liban. Rien que ça. De plus, ce roncier méprisant pose une condition, tout en menaçant délibérément. L'ensemble de ces éléments dépeint la conception négative de la royauté. Et vous comprenez pourquoi Dieu était contre la royauté. Quand Samuel lui a dit « Le peuple demande un roi », il a dit « Non, c'est pas possible. » Et vous savez ce que Saül a fait de la royauté. David, c'est autre chose, mais c'était un des seuls rois qui a tenu la route. Cette royauté du buisson d'épines ne véhicule que des valeurs de mort, sous des aspects très généreux. C'est le propre d'une démarche sophiste. Vous connaissez les sophistes ? Vous savez, quand on raisonne, vous raisonnez tous, hein, heureusement, parce que vous êtes des êtres humains, quand on raisonne normalement avec une logique, cause, conséquence, enfin, voilà, une logique, quoi. Bon, voilà, c'est la raison humaine qui essaie de poser des choses, voilà, dans notre vie quotidienne. Les sophistes, justement, ils étaient combattus par les sages de l'époque antique. Eh bien, ils ont une logique qui est fausse, dans l'intention de tromper. C'est ça, les sophistes. L'intention, c'est de tromper l'auditeur. Donc, ils ont une logique, mais cette logique vous amène dans le fossé, vous amène à votre malheur, au chaos. Et c'est ça qu'a fait Abimélec qui est symbolisé par le buisson d'épines. Yotam, qui est le dernier rescapé de la famille, donne lui-même la clé de lecture en identifiant clairement le buisson à Abimélec. Alors en quoi cette fable tragique, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça la véritable leçon de ce matin que le Seigneur veut nous aider à comprendre. Cette fable pose le problème de la conception de l'autorité au regard de la relation à Dieu. Vous savez que l'autorité n'a plus guère de beaux jours aujourd'hui, puisque depuis 68, moi je suis un enfant 68, quand j'avais 20 ans, c'était 1968, et j'ai connu cette rébellion, là aujourd'hui c'est les Gilets jaunes à l'époque, c'était la rébellion avec les pavés, je crois qu'ils enlèvent aussi les pavés aujourd'hui, mais à l'époque c'était tout Paris qui était barricadé, c'était comme une guerre, et même De Gaulle est parti, qui a libéré la France, et est parti à Bonn en disant c'est la chienlit, et qui ne pouvait plus rien faire pour la France. Donc c'était une rébellion bien plus terrible. Et dans cette rébellion, les Français, mais aussi l'ensemble de l'humanité, a jeté les institutions de l'autorité. Et depuis, tout s'est écroulé. Religion catholique à l'époque, regardez les statistiques. Moi, j'étais dans une ville où, en tant que catholique, il y avait 1000 personnes au culte. Eh bien, il n'y avait plus que 200 en une année. Ça s'est effondré, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ils sont peut-être 20, quoi. Au maximum. Et encore, il y a les sœurs qui viennent pour remplir les rangs. Donc, l'autorité en a pris un coup parce qu'on ne veut plus d'autorité. Mais l'autorité de Dieu aussi. Parce que les deux sont liés. Et on le voit ici dans cette fable. Alors, cette fable, tout d'abord, les arbres et la vigne refusent de se placer au-dessus du peuple, conscients de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils veulent rester dans un schéma de service, à leur place, dans la joie de servir. Point n'est besoin de désirer entrer dans une responsabilité qui dépasse leurs compétences, vous savez. Notre compétence, si nous reconnaissons qu'elle vient de Dieu, on n'a pas besoin de la mettre en avant sur un titre. Il y a des gens qui veulent des titres. Mais exerçons la compétence que Dieu nous a donnée au sein de la communauté que nous sommes. Et c'est ainsi que nous pouvons ressembler aux arbres et à la vigne. Donc ces symboles sont l'attitude de la maison de Gédéon. Vous voyez, la maison d'Élie, la maison de Gédéon, c'est ceux qui suivent l'exemple de Gédéon. La maison de Gédéon. Ils représentent ceux ou celles qui n'acceptent dans leur vie que la seule autorité de Dieu et qui sont heureux de la vivre. Conscients des dons qu'ils ont reçus, ils ont un cœur dans une relation de confiance avec les autres, de servir le Seigneur en premier et en tout, en témoignant des actes d'amour et de reconnaissance. C'est l'attitude de Pierre et des apôtres. Lors de la deuxième persécution de Jérusalem, il y a eu plusieurs persécutions à Jérusalem, jusqu'à la destruction de Jérusalem en l'an 70, et Pierre, avec les apôtres, affirme dans Actes 5, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez, quand il y a une confrontation d'autorité, eh bien le choix, c'est obéir à Dieu, même si notre vie est en jeu. Quelle autorité vais-je accepter dans ma vie? C'est la question de ce matin. Gédéon nous a ouvert la porte. La seule personne qui fasse autorité, c'est Dieu et Dieu seul. C'est devant lui et lui seul que nous pouvons accepter d'être tenus pour responsables de tous nos actes, parce que nous passerons en jugement. Et lui seul peut vraiment comprendre le parcours sinueux de notre vie. Lui seul a toutes les informations pour délivrer un jugement au regard de la vraie justice. Reconnaître cette autorité, c'est s'affranchir des regards épineux, des regards qui peuvent nous intimider, et rester ferme dans cette soumission à Dieu. C'est une force intérieure que nous recevons quand nous avons cette attitude. Elle s'appuie sur la conviction d'avoir un vis-à-vis qui nous accueille, qui nous comprend, qui nous éduque, qui nous responsabilise, qui nous encourage et qui nous console. Jésus n'a-t-il pas dit « Je vous enverrai mon esprit, le consolateur ». Et le Seigneur a prévu tout pour nous aider à nous soumettre à cette autorité. Quand on a l'assurance d'être aimé, on est prêt à donner le meilleur de soi. Et on ne redoute pas de rendre compte de sa conduite. C'est aussi, pour ceux qui ont suivi l'école du ministère à la Maison des Livres, vous avez compris que l'amour est au centre de ce ministère, pour redonner à chacun de nous la confiance que en Dieu, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement et que nous pouvons exercer tous les dons qu'il nous a donnés et rentrer dans la plénitude de notre destinée. Regardons un peu le buisson d'épines. Là, je viens de parler des arbres, des deux arbres et de la vigne. Tous ceux plus nombreux qu'on ne croit et qui croissent dans notre société actuellement, qui, avec des arguments faux, donc sophistes, des faux arguments, ont soif de pouvoir et de domination. Ils véhiculent toutes les prétentions humaines, tendant à marginaliser, voire à effacer toutes les références à Dieu. Ils sont leurs propres normes. Et comme Abimélec, ils entretiennent ce concept qui est bien connu, la fin justifie les moyens. Vous avez déjà entendu ça? C'était le concept d'Abimélec. Plus subtil, dans les assemblées religieuses, dans les églises, c'est plus subtil, car il y a ceux qui pensent avoir des droits sur leur communauté. Il y a certains pasteurs qui disent « Ah, les gens n'ont pas le droit de quitter l'église parce que je les ai baptisés ». Il y a un droit dessus, et puis il y a plein d'autres abus de pouvoir de ce genre-là. Ce sont des directeurs de conscience qui ne se rendent pas compte qu'ils occupent une place qui n'appartient qu'à Dieu. Quand nous sommes baptisés, nous appartenons à Dieu, et pas à des hommes, pas à des institutions. Et pourtant, il faut être soumis aux autorités. C'est là toute la problématique. Si on prend la psychanalyse, donc c'est l'analyse de l'âme, si vous voulez, pour rabaisser un peu le mot à sa juste valeur, moins on est au clair sur sa personnalité, et plus on compense par un registre se référant à l'autorité, j'ai essayé de m'expliquer. Le buisson d'épines, destiné par nature à être brûlé, deviendra destructeur. Cette science de l'âme éclaire tout un pan de la relation à l'autre. C'est le problème de la relation à l'autre, de manière générale, soit Dieu ou soit les humains. Elle met en évidence le fait que l'on cherche souvent à reproduire sur les autres ce que l'on est. Donc si on est bien, on reproduit du bien. Si on est mal, on reproduit du mal. Comme on a du mal à assumer nos propres contradictions, alors notre autodéfense, qui elle est inconsciente, nous amène à reproduire de temps en autre ce que l'on dénonce avec vigueur dans la société. Par exemple, le buisson d'épines déclare au verset 15 « Réfugiez-vous sous mon ombre !» alors qu'il n'a pas d'ombre. Voilà où mènent les prétentions humaines. Vouloir diriger l'autre, vouloir diriger son frère, n'est-ce pas le priver de sa liberté, de l'étouffer, alors que Dieu veut l'épanouir. Le buisson d'épines n'est plus conscient de ses vraies possibilités, et du même coup, il usurpe ce qui appartient à Dieu seul. C'est comme la grenouille du monde spirituel qui veut se faire plus grosse que le bœuf. L'humain a toujours été tenté d'agir à la place de Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui doit être le centre de chacune de nos vies, et surtout quand on est dans une position de responsabilité. Il n'est pas étonnant qu'Abimélec s'emparait avec duplicité et manipulation de la royauté, parce qu'il voulait diriger et gouverner à la place de Dieu sur le peuple. Alors le processus qui conditionne l'autre où les autres, pour mieux les dominer, entraînent inévitablement de les rendre prisonniers, d'aliéner les personnes. Et quand l'attention est portée sur l'humain, sur la chair, elle nous détourne de Dieu. Et il y a réellement un danger pour la liberté. Vous voyez, la société civile nous responsabilise dans nos rapports les uns avec les autres et tente de se porter garant de toute atteinte à notre intégrité. C'est un peu le rôle des autorités que Dieu a mis en place. Je sais qu'un frère du Congo, je crois, nous a dit, à un moment donné, il n'y avait plus de gouvernement. Et en l'espace de quelques mois, c'était l'anarchie, mais alors les viols, c'était absolument l'horreur. Donc Dieu, effectivement, permet cette autorité, qu'elle maintienne les choses pour que la vie soit possible. Sinon, l'être humain devient un animal féroce. L'humain a toujours été tenté d'agir à la place de Dieu. Il n'est pas étonnant de voir ici dans cette fable qu'Abimélec a voulu effectivement prendre la place de Dieu et ça s'est très mal terminé. Le processus qui conditionne l'autre ou les autres pour mieux les dominer entraîne cet esclavage. Dans Galates chapitre 5 verset 1, il dit si c'est de bonne foi que vous les moindres rois, venez, de bonne foi. Réclamez la bonne foi quand on est de mauvaise foi. Vous vous rendez compte ? Voilà. Les usurpateurs, c'est qu'ils se réclament d'une bonne foi, donc dans le discours, alors qu'en fait, il est de mauvaise foi. C'est la caractéristique de ceux qui n'ont pas d'arguments sérieux pour nier l'existence de Dieu, pour défendre leur position ou justifier toute incursion dans la vie d'autrui. Croyant servir Dieu, est-ce qu'on peut faire l'œuvre du diable ? C'est une question que je vous pose. Oui ? Croyant servir Dieu, on peut faire l'œuvre du diable. Il y a beaucoup d'exemples. Croisade, par exemple, où on tuait les juifs sur le chemin des croisades, avec un discours qui allait dans le sens d'encourager cela. Dans Jean, chapitre 8, verset 4, Jésus dénoncera souvent cette hypocrisie des pharisiens, des responsables religieux de son époque. Comment, dès lors, avoir un repère fiable ? Eh bien, il faut analyser nos motivations. Quelles sont nos motivations ? Elles doivent avoir deux marqueurs, la justice et l'amour. La justice et l'amour, ce que n'avait absolument pas Abimélec. Alors, pour conclure, cette femme nous fait réfléchir sur la question importante du rôle de l'autorité sur les plans collectif et sur le plan individuel. Tout cela nous renvoie à une question personnelle. Qu'est-ce qui dirige notre vie aujourd'hui ? Quel est notre rapport à l'autorité ? Est-ce qu'elle relève de l'humain ou est-ce qu'elle relève de Dieu ? Nos réponses vont inévitablement conditionner nos choix, nos attitudes et nos habitudes aussi. Reconnaître l'autorité du Dieu créateur, c'est admettre l'autorité d'un père. Dieu est un père qui est bon. Un père qui a initié toute chose et dont nous sommes redevables. C'est prendre acte de tout ce que nous avons reçu de ce père, de le remercier, d'être dans la reconnaissance de ce qu'il nous a donné. C'est d'avoir le désir de mettre toutes les choses que Dieu nous a données au service des autres, dans une démarche de respect et d'amour. Vous voyez, si on est dans cette attitude, on ne risque pas de chercher le pouvoir, parce que le pouvoir est à Dieu. Et on reconnaît que c'est par son pouvoir qu'il me donne de pouvoir faire ceci ou cela, de pouvoir mettre à disposition mes dons. Ça s'appelle la position d'un serviteur inutile. C'est pas que on est inutile, mais c'est notre motivation qui reconnaît que nous sommes serviteurs inutiles puisque tout nous vient de Dieu Et donc, on est simplement un canal au travers duquel Dieu peut nous utiliser pour servir le bien commun, pour servir la communauté qui est le bien commun. C'est aussi avoir un comportement simple. On n'a pas besoin de grands décorums, hein, liturgiques ou autres, etc., pour impressionner. On n'a pas besoin de reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être reconnaissant. On est toujours dans ces paradoxes. Soyez reconnaissants les uns envers les autres. Mais on n'a pas besoin de la reconnaissance. Vous voyez la différence entre être reconnaissant et ne pas avoir besoin. Quand on a besoin de reconnaissance, ben on va tomber du côté d'Abimélech. Pourquoi on n'a pas besoin de reconnaissance? Parce qu'on est habité par la grâce. Si la grâce est une réalité, la grâce nous donne au fond de nous-mêmes ce sentiment de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants de la grâce que Dieu nous donne de pouvoir exercer tous ses services. Alors on n'a pas besoin d'être admiré. Admiré, hein, ça veut dire admiré. On a besoin de m'admirer pour exister. Non. Le Seigneur m'a fait merveilleux. Et dis à ton voisin, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Voilà. C'est reconnaître, mais on n'a pas besoin, il faut le dire. Mais on n'a pas, voilà, parce que Dieu nous le dit et parce que la parole nous l'affirme. Voilà. Mais si on attend d'être admiré, qu'est-ce que ça donne? On se met sur un piédestal pour que les autres nous admirent. Vous voyez, c'est le début de l'idolâtrie de l'empereur qui, à l'époque et aujourd'hui encore, a toujours lieu pour ceux qui cherchent l'admiration. On n'a pas besoin qu'on nous décore. Moi, j'ai besoin de décoration pour être pasteur. Je suis pasteur parce que je vous aime, et parce que j'aime le peuple de Dieu, parce que j'aime sa parole et tout. Voilà, décoration, on s'en fout. Hein, mais il y en a qui ont besoin de ça, parce qu'il leur manque quelque chose dans leur âme. On est habité par la grâce. On n'a pas besoin d'être applaudi. Applaudissons le Seigneur. Mais on ne cherche pas l'applaudissement. Vous voyez, le consensus de cette admiration qui est marquée par cette recherche de gloire comme les stars. C'est Dieu secrètement que l'on sert à travers le prochain. La satisfaction est immédiate en soi parce que ça nous procure cette joie. Vous voyez, l'exemple de Colette est un exemple, même s'il n'a pas pu descendre, voilà, elle l'aurait fait. Mais voilà, on a une satisfaction de manifester l'amour pour quelqu'un qui en a besoin. C'est surtout utiliser au mieux ce que nous sommes. Restons simples. Là où Dieu nous a donné un talent, exerçons le talent. Ne cherchons pas, comme les vaches, à brouter. Vous avez vu les vaches mettre la tête de l'autre côté comme, alors qu'ils ont plein d'herbes dans leur truc. Voilà. Ça, c'est humain, c'est charnel. Il faut tendre à développer le meilleur de soi, pour les autres, et ça devient un défi dans notre vie. Mettons nos talents à disposition du Seigneur et des autres. Et nous aurons assez de temps pour cela dans notre vie. On n'a pas besoin de chercher d'autres talents, de chercher d'autres choses, etc. Le Seigneur donne ce qu'il ordonne. Si vous appelez à quelque chose, il vous donnera les capacités pour le faire. Mais si vous cherchez à faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas appelé, vous êtes en grand, grand, grand danger. Parce que vous cherchez l'approbation des autres. Vous cherchez l'approbation humaine. Vous cherchez les applaudissements, vous cherchez la reconnaissance, vous cherchez à être élevé. Hello ? Ça vous parle ? Quand on est bien dans sa relation avec Dieu, bien dans son corps, bien dans son cœur, bien dans sa tête et avec son prochain, les sirènes de la domination, du pouvoir ont beaucoup moins d'emprise sur nous. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'emprise, mais beaucoup, beaucoup moins. Et on distingue plus finement les pièges de l'ennemi. Et on peut rester plus vigilant. Alors, ça s'appelle chercher la racine. Au ministère de la prière, la maison d'Élie, la racine, elle est là. Quelle est notre motivation? Est-ce que nous voulons que l'autorité de Dieu soit présente dans nos vies, ou est-ce que nous voulons chercher l'autorité humaine qui est en nous, qui veut dominer, qui veut prendre le pas sur les autres? Si notre conception de l'autorité repose sur le moi, l'ego, l'humain, nous allons avoir tendance à nous approprier ce qui ne nous appartient pas. Ça s'appelle la manipulation et la domination. À agir à la place des autres, à juger, à conditionner notre entourage pour arriver à nos fins. Le pire est que cette confusion peut très bien partir de bons sentiments. Attention, hein. L'enfer est pavé de... Hein ? Vous voyez, la sagesse populaire a remarqué ces choses. Le besoin d'être toujours au centre de l'arène, au centre d'être bien vu, au centre de se mettre en évidence, d'attirer constamment l'attention sur soi, prouve, la racine, prouve que, eh bien, que quelque chose du registre de l'autorité dans nos vies a été mal posé. C'est le moment de la reposer. On peut tous, à un moment donné, ça s'appelle la repentance. C'est revenir au point, et la maison d'Élie vous aide à cela, à trouver la racine et à guérir de cette racine. C'est étonnant qu'aujourd'hui, tous, beaucoup de ceux qui ont fait mai 68, comme moi j'étais là-bas à l'époque, se retrouvent dans des postes de dirigeants qu'ils haïssaient. Hein, c'est vrai ? Vous avez aussi ce constat ? Hein, qu'ils fustigeaient à l'époque, et maintenant ils font comme ceux qu'ils détestaient à l'époque. C'est humain, et ça lui suit cette loi. Abimélec a persisté à ne pas voir cela. Et Saul, qui a suivi Saül, il a fait la même chose. Vous connaissez très bien l'histoire de Saül, puisque Michel vous l'a extrêmement bien présenté. Eh bien, Abimélec mourut dans des circonstances tragiques, lors du siège de Thébets, alors qu'il allait mettre le feu à la porte de la tour centrale pour brûler des milliers de vies, comme il l'a fait déjà précédemment, son crâne a été brisé par un morceau de meule que lui lança qui a lancé une femme. Horreur, horreur pour ces gens-là. Pour ne pas qu'on dise que c'est une femme, et là vous lisez Juge 9, 50-57, c'est marqué, hein, c'est pas une invention. Pour ne pas dire que c'est une femme qu'il a tuée au moment de mourir, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à son aide de camp de lui donner un coup d'épée pour mourir. Vous voyez, jusqu'où ça va? Le délire, la folie de son moi, de son ego, de son autorité qu'il veut élever. Jusqu'au moment de sa mort. Et c'est pour ça que ces gens-là, on ne peut rien faire, si ce n'est que eh bien, d'avoir pitié d'eux, de prier pour eux. Est-ce que nous voulons être cela ou pas? C'est la question. Nous pouvons l'être à notre niveau. Comment est-ce que nous nous comportons dans nos familles, avec nos parents, avec nos enfants? Un enfant, c'est fragile. Et il a besoin, lui, de trouver sa liberté quand il sera grand, de faire une nouvelle solidarité avec un conjoint, etc. Donc pensons à cela, ne pensons pas à nous, ce que nous ressentons pour l'enfant. Bien sûr, il faut ressentir de l'amour, mais il faut déjà ressentir que cet enfant va devenir grand et qu'il doit avoir une personnalité équilibrée, qu'il doit avoir une personnalité qui n'est pas centrée sur lui, mais sur l'amour. L'amour, c'est le don de soi. C'est pas « je sens, oh, je sens ». Ça, c'est du romantisme, je suis pas contre. Tout le monde ressent du romantisme, mais l'amour de Dieu, c'est celui qui a donné Jésus pour nous. Et nous, nous sommes habités par cet amour où nous devons donner aussi le meilleur de nous-mêmes. Ce que Dieu nous a donné à notre niveau, nous ne sommes pas Jésus. Mais ce qu'il nous a donné, donnons-le. Et plus nous allons donner, plus notre joie va grandir, parce que le Saint-Esprit en nous se réjouit de voir que nous ne sommes pas centrés sur nous, que nous sommes centrés sur les autres. L'aveuglement d'Abimélec l'a conduit à la ruine. L'aveuglement, le déni. Tôt ou tard, toutes les postures du pouvoir et de domination se convertissent en déception. Tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est l'enseignement de cette fable. Sachons mesurer les effets de cela. Un jour, je suis allé voir Jacques Poujol pour lui parler un peu des choses qu'on vivait. Il a dit, mais c'est incroyable, dans les mouvements évangéliques, ne cherchez pas ailleurs, il y a de ces gens-là que les gens mettent au pouvoir. C'est les gens qui mettent au pouvoir. Hein ? Bien sûr, les gens, ils sont, ceux qui sont au pouvoir, ils ont cette responsabilité eux-mêmes. Mais pourquoi les gens ? Mais là, les gens, c'est les gens qui ont mis Abimélec au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils adoraient les Baals, les Astartés. Ils n'avaient pas l'autorité de Dieu. Donc il y a une responsabilité conjointe entre le peuple et les leaders. Allô ? Ça vous parle ? Demandons au Seigneur la sagesse. Nous sommes dans des temps où ce genre de nature va proliférer de plus en plus. Depuis 68, c'est quand même un marqueur dans l'histoire. On a rejeté toute autorité. Moi, quand j'étais étudiant à ce moment-là, quand vous preniez les bouches de métro, c'est marqué, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Le rejet de toute autorité était marquant. Et aujourd'hui, nous sommes imprégnés de cet esprit. J'aimerais qu'on demande pardon au Seigneur, parce que cet esprit nous imprègne. Et plus ça va, plus nous avons tendance à rejeter toute institution, toute autorité, toute chose que Dieu veut mettre à notre disposition pour nous aider à grandir. Mais nous voulons être notre Dieu, notre maître absolu. L'individualisme qui règne. Que le Seigneur nous aide à savoir être comme Gédéon, comme toute la maison de Gédéon, qui a dit, seul c'est Dieu, je veux que ce soit Dieu qui règne sur mon cœur pour que je puisse manifester l'amour aux autres. Pas la domination, pas le contrôle, pas la manipulation. Amen. Seigneur, te demandons pardon pour voilà, cette attitude de l'humain. Et nous sommes humains, même en étant chrétiens. Nous te demandons pardon, Seigneur, de suivre cette voie qui nous entraîne à la perdition, qui nous entraîne au chaos, à la destruction, qui nous amène, Seigneur, à ne plus être sous ta protection. Alors Seigneur, pardon pour cette génération, pardon pour cet esprit qui s'est voilà, infiltré dans notre humanité. Et Seigneur, pour nous aussi, nous te demandons la grâce de remonter le courant, comme les poissons qui sont vivants. Seigneur, nous ne voulons pas suivre ce courant. Nous voulons que toi, tu sois en autorité sur nous. Et alors, les choses vont se remettre en place, c'est vrai. Parce que toi, Seigneur, tu as établi toute autorité pour que nous puissions vivre en paix en attendant ton retour. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour chacun de nous, que nous puissions avoir ce temps de repentance aussi dans les groupes, la maison d'Élie, Seigneur, que chacun puisse voir et arracher cette racine, Seigneur, qui est liée à la chair, et que nous puissions marcher dans l'esprit, marcher de victoire en victoire, pour entrer dans notre destinée, entrer dans cette destinée que tu as pour chacun de nous. Seigneur, tu es bon, merveilleux, et nous voulons te bénir de ce que tu vas le faire. Au nom de Jésus, nous te prions.